Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. C'est l'heure de retrouver vos grandes voix comme chaque soir avec nos invités, nos grandes voix ce soir. Charles Villeneuve, bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir.
Charles, Alexis Poulain est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste fondateur du site Le Monde Moderne, merci d'être là. Laetitia Krupa, spécialiste communication politique, on va y arriver.
Ça va aussi, bonsoir.
Bienvenue à vous Laetitia.
Non, Krupa, aussi... c'est quand même, il y a une intonation féminine, Krupa. Ça fait joueur de foot.
Je suis d'accord avec vous, Charles. Okay.
Ça c'est fait. On était évidemment aussi avec vous au 39-21, bien entendu. Et on va faire un tour par New York, si vous le voulez bien. Une petite photo ce soir pour entrer en matière. New York, le point d'orgue de cette mobilisation mondiale pour le climat ce week-end. Xavier Yvon, vous êtes à Manhattan, où on attend plus d'un million d'élèves et d'étudiants.
Ah oui, il y a déjà du monde et ça continue d'arriver, parfois des classes entières. New York est en fait censé être l'épicentre du mouvement parce que c'est ici que dans 3 jours, les dirigeants du monde entier vont se réunir au chevet de la planète pour le sommet climat de l'ONU. Et c'est à eux que s'adressent ces manifestants comme Sacha, 9 ans, venu de Brooklyn avec son petit panneau.
Kids can do one thing, tell you to do your job. Les enfants peuvent faire qu'une chose, te dire de faire ton travail.
À qui tu parles ?
Au président qui font rien pour cette planète. Tous les présidents.
Act now, agissez maintenant, c'est le mot d'ordre de ces très jeunes manifestants. Avec à leur tête Greta Thunberg, la jeune suédoise est aux États-Unis depuis un mois. Ce devrait être ici à New York sa plus importante grève des écoliers pour le climat depuis qu'elle a lancé toute seule le mouvement il y a un an. C'est un tel phénomène que la ville de New York a fini par autoriser les élèves à rater les cours pour venir ici manifester pour leur avenir.
Xavier, ils vont à New York pour Europe 1. On sera un peu partout hein, tout au long de la soirée et à 19h30 aussi avec Lambert Wilson dans ce studio. Alexis Poulain, Laetitia Krupa, ces mobilisations, 2 jours de mobilisation. Greta Thunberg qui sera à l'ONU également pour prendre la parole devant le monde entier. C'est bien tout ça. Il y a de plus en plus de monde dans les rues. C'est bien, mais c'est suffisant ?
Non, c'est pas suffisant.
C'est de l'affichage ?
C'est pas de l'affichage. Ça montre... une vraie prise de conscience des jeunes générations et des populations en général. Mais faire des marches, faire des pétitions, avoir Greta qui parle à la tribune de Davos, à la tribune de l'ONU, à la tribune de n'importe où, enfin, c'est beaucoup de blabla. La réalité derrière, c'est qu'on est prisonnier d'un système, d'une économie de la guerre, où on vend beaucoup d'armes. Les grandes nations, les grandes puissances sont en train de se focaliser sur la prochaine guerre du pétrole. On voit bien ce qui se passe en Arabie Saoudite avec l'attaque d'Aramco, le détroit d'Hormuz. Donc on est loin des préoccupation réelle en fait des dirigeants de cette planète qui reste focalisée sur le pétrole et sur la compétition, que ce soit les accords internationaux, quoi que ce soit.
Quand bien même il y aurait des millions de personnes dans les rues, et il y aura des millions de personnes dans les rues, et quand bien même les mobilisations vont se démultiplier,
c'est un message, c'est-à-dire que ça oblige le politique à avancer d'un petit pas. Mais pour une révolution écologique, si on veut éviter la catastrophe des degrés qui vont beaucoup trop haut, il faut aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin. Or, rien n'est fait. La transition énergétique, elle ne marche pas. Les Allemands qui ont fermé leurs centrales se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de faire du renouvelable et qui dépendent du charbon et du gaz russe. Donc, on n'a pas de solution. Aujourd'hui, on est coincé à la fois par un plateau technique, mais par aussi un manque de volonté politique pour aller au-delà du pétrole, au-delà du carbone.
Mais vous serez d'accord avec moi, la volonté politique vient aussi d'une mobilisation qui devient de plus en plus pressante. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette même problématique, la bataille de l'opinion publique. Pour l'instant, la jeunesse est dans la rue. Elle est quand même dans la rue dans plus de 5000 événements dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène de masse. Les images sont fortes, sont puissantes. Si ensuite, on arrive à rallier le reste de la société... Je vais vous faire remarquer que des entreprises
commencent à... Il y a eu les élections européennes, il y a eu les élections, il y a le résultat des élections européennes, il y a des élections municipales et il y aura 2022. Donc,
et les entreprises commencent à vraiment suivre le mouvement. Vous allez voir, il y en a certains qui débrayent et qui commencent à aller suivre ce mouvement de la jeunesse. Là, on va pouvoir dire oui ou non, est-ce qu'il y aura un impact ? On en est loin puisque seul le Maroc et la Gambie ont des engagements compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris 2015. Donc, pour l'instant, on en est très loin. Mais je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a dit qu'il avait changé.
Il a dit que
ce mouvement l'avait fait profondément réfléchir. Alors, soyons optimistes.
On verra.
Charles, on verra.
Et puis... Je suis ironique, hein, évidemment.
Ouais,
Charles.
Non, mais parce que regardez les 800 millions annoncés ce matin, là, au micro d'Europe 1 pour le ministère de l'Environnement. Ouais. Non, mais ça va exactement dans ce sens-là. 800 millions ce matin, quand l'Allemagne, elle annonce d'ores et déjà 100 milliards d'investissements pour l'écologie, rien qu'en Allemagne. C'est 100 fois plus que la France ce matin. C'est-à-dire que la France, elle est encore plus à la traîne.
Mais c'est même pas une question d'investissement, c'est une question de mentalité.
Ça passe aussi par là.
Ça passe par là, mais ça passe aussi par une réflexion. On est des sociétés gavées, énergivores. énergivore, on dépense, on consomme et on gaspille l'énergie. Quand il est question de faire un grand plan pour l'isolation des logements, rien que ça, commençons par là, eh bien, il n'y a rien sur la table. Il n'y a pas de plan, on ne veut pas s'y mettre, ça coûte trop cher. Donc, on consomme trop. Ça, le problème commence là et derrière, on n'a pas les solutions. Alors, c'est bien de dire qu'on va mettre des budgets, mais il y a des habitudes. Il y a la façon aussi dont les grandes entreprises profitent du dérèglement climatique en disant c'est pas grave, ce sera après nous.
On écoute Charles dans un petit instant parce que vous avez, vous, évidemment, votre petite leçon peut-être à nous formuler, Charles. En tout cas, vous regardez ça.
Non, moi, je ne donne pas de leçon.
Bon, alors, en tout cas, on vous écoute dans un instant avec les auditeurs. Avec les auditeurs également, juste après.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h, entourée des grandes voix. Charles Villeneuve ce soir, Alexis Poulain, journaliste fondateur du site Le Monde Moderne, et Laetitia Krupa, spécialiste communication politique. Vous pouvez bien sûr interpeller les grandes voix, n'hésitez pas à réagir, 39-21.
Un sommet spécial sur le climat à New York lundi, de nouvelles mobilisations d'ici là, comme mi-mars et mi-mai d'ailleurs, en France, un peu partout dans le monde, dans plus d'une centaine de pays. On n'a pas encore entendu Charles Villeneuve sur le climat, pourtant Charles Villeneuve, vous avez des petits-enfants, donc vous êtes concerné, donc vous savez très bien ce qu'il faut faire pour demain.
J'ai des enfants aussi.
Aussi.
Et des petits-enfants.
Bah oui.
Non, mais je trouve qu'il y a une forme de critique, si vous voulez, intégrale du productivisme qui entre en collision avec deux phénomènes très importants. Le premier phénomène, c'est la croissance démographique en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. On vous dit aujourd'hui, on vous répète que nous sommes 5 milliards et qu'à la fin de ce siècle, on sera entre 8 et 9 milliards. Il faudra donc plus de travail, plus de bouche à nourrir, plus d'énergie pour les loger, les chauffer. Hein, vous êtes d'accord, je n'entends pas d'approbation.
Non, non, bah, non, mais
bon. Bon, et puis deuxième phénomène, chauffer. Ce discours jusque sur là. Le développement durable, avec mademoiselle
Greta Thunberg,
qui va monter en chair à l'ONU demain, etc., etc., est en contradiction, si vous voulez, totale, avec ce que montrent notamment tous les grands pays émergents. Prenons la Chine, elle a triplé sa production. Elle s'ouvre les routes de la soie. Prenons l'Inde, 1 milliard 200 millions d'habitants. Que fait-elle sur le plan de la productivité? Que monte-t-elle sur le plan de la production d'électricité? Qu'exploite-t-elle sinon du charbon, etc., à ciel ouvert, en permanence? Donc, si vous voulez, il y a un tel paradoxe, parce que je vous rappellerai que qu'est-ce qui a mis les bonnets rouges dans la rue? C'est quoi? L'écotaxe. Qu'est-ce qui a mis les gilets jaunes dans la rue?
L'essence.
C'est la taxe carbone. C'est quoi donc que la fiscalité écologique? Alors, je veux bien que, si vous voulez, on nous infuse cette idéologie, notamment dans la tête des jeunes générations, répressive, une idéologie qui ne croit plus au progrès, à la capacité de l'homme d'innover, etc. Je trouve que c'est trop excessif d'un côté. Et tout à l'heure, Alex, d'ailleurs, rappelait quelque chose de très important. C'est que la réalité industrielle, elle est très loin, très loin. Et que, soi-disant, si vous voulez, la volonté... nuancé pour certains des hommes politiques, parce que moi je prends la volonté de Emmanuel Macron assez nuancée. Je trouve qu'elle est beaucoup plus nuancée qu'on veut bien le présenter. Mais il sait très bien que la réalité, elle est contre tous ces discours.
Bien sûr, mais en fait, je crois que tout le monde est d'accord, Charles. Mais le problème, en fait, je crois que tout le monde est d'accord.
Parfait.
Le problème, c'est ces discours-là de changement de monde, alors que toutes les projections sont... Enfin, l'avion, prenons l'avion. Il va falloir payer le billet plus cher parce que l'avion... Les projections, c'est que la flotte d'avions va doubler dans les 25 années. Donc, on est toujours dans cette
contradiction, dans cette
logique productiviste. Effectivement, on est de plus en plus nombreux. Mais on n'est pas dans une logique d'économie sur la dépense d'énergie. Et là, on pourrait faire des efforts faciles. Mais on ne peut pas les faire.
On va entendre Michel qui nous appelle de Saône-et-Loire. Bonsoir Michel, bienvenue sur Europe 1.
Oui, bonsoir.
Cette marche, elle fait sens. Ces mobilisations, elles font sens pour vous? Vous espérez quoi? Allez-y.
Oui, mais j'espère que j'ai une petite minute, une réaction face à Charles Villeneuve. Je veux dire, il y a des partages aussi à faire, c'est des partages financiers pour investir. La COP21, déjà merci aux jeunes, parce qu'ils font, j'ai 62 ans, ils font ce que nous on n'a pas fait. Je suis simple militant, mais ce qu'on n'a pas fait pendant une génération, puis j'entends encore les politiques qui ne font rien. Je veux réagir à Macron, à son habit vert. L'écologie, c'est pas changer, c'est pas faire semblant de mettre un costume. J'ai entendu Ségolène Royal. Je suis un petit peu outré et j'ai fait sa campagne avec ardeur en 2007.
Tout le monde se trompe.
Oui, oui. Non, mais je me trompe. J'assume. Par contre, elle a complètement changé. Parce que quand on signe des accords ultralibéraux, quand on signe le traité de Lisbonne, quand l'ultralibéralisme nous amène où on en est aujourd'hui, quand on signe le CETA, le TAFTA, le Mercosur, qui sont complètement incompatibles avec une politique écologique, je veux dire, les politiques aujourd'hui sont relativement dépassées. Je rejoins ce que disait Alix Poulain, c'est dur, c'est long. Mais les politiques aujourd'hui ne réagissent absolument pas. La COP21 n'est pas respectée, vous le savez, si vous êtes journaliste. Consommation d'énergie, ça n'a pas été respecté. Gaz à effet de serre.
Donc vous dites merci aux jeunes. Vous dites aujourd'hui, le réveil passera par les jeunes. Le réveil, c'est les jeunes. Et si les jeunes, effectivement, prennent la main, il y a peut-être là une chance de s'en sortir. Voilà ce que dit ce soir Michel, en tout cas, en nous contactant sur Europe 1. Je voudrais qu'on aille, parce qu'il va y avoir du jaune. Il va y avoir du vert, pardon, mais il va y avoir aussi du jaune. Oui. Déjà très imprégné. Il va y avoir du jaune aussi ce week-end.
Et on espère qu'il n'y aura pas de rouge.
Bah, voilà, on espère. Vous avez raison de le prendre comme ça.
Il peut y avoir
parce que...
des noirs.
Des noirs.
Des noirs.
Ah, exactement. On parlait des Black Blocs, évidemment, oui. Qui sont redoutés par les forces
de l'ordre.
Et le rouge,
c'était le sang. Hein. C'était pas les
cocos. On avait compris. Oui. Non, mais je voudrais comprendre. On a dit que ça s'essoufflait. On a entendu, on a lu que ça s'essoufflait. Acte 45 des Gilets jaunes, demain, un samedi annoncé comme incandescent. Les forces de l'ordre qui sont déjà sur le qui-vive. Alexis Poulain, tremblons maintenant, c'est ça ?
Non, mais je crois que c'est un message du gouvernement pour dire ne manifestez pas demain, ne venez pas. C'est aussi pour éviter que les gens viennent, on fait peur. La réalité, elle est tout autre. Ce mouvement des Gilets jaunes, il ne s'est jamais terminé. Mmh. Emmanuel Macron n'arrête pas de vouloir enfermer la parenthèse. Or, cette parenthèse,
Il s'est quand même essoufflé.
La manifestation du 7 septembre à Paris, c'était 800.
Mais évidemment, si vous regardez les chiffres,
quantitativement, il s'est essoufflé.
Est-ce que vous avez vu un mouvement qui a duré aussi longtemps ? Est-ce que vous avez vu un pays avec autant de corps de métier qui sont en grève ou qui sont dans un état de fatigue absolue ? Les policiers qui vont faire une action intersyndicale, commune, qui n'en peuvent plus sur les retraites, sur les heures sup non payées.
L'agglomération n'existe pas là pour l'instant.
Non, mais regardez. C'est-à-dire que la coalition n'existe pas
Alex,
parce qu'on a évité.
Attendez,
non, mais c'est vrai qu'il...
Il y a une petite pause. Attendez, oui. Je vous assure, Charles, que vous interpellez, vous débattez avec Alex. Parce que
et
vous
moi
avez
aussi.
Décidé, et avec
non,
Laetitia. Mais vous allez débattre avec Alex, puisque c'est son petit nom dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h ce soir. Charles Villeneuve, Alexis Poulain, journaliste fondateur du site Le Monde Moderne et Laetitia Krupa, spécialiste communication politique. Et toutes vos réactions en direct sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, Nathalie.
Le match Charles Villeneuve, Alex Poulain.
Non,
parce que...
non,
mais bien sûr, Charles.
Oui, mais
sur les Gilets jaunes.
Non, mais t'as raison, Nathalie, t'as raison.
Ils veulent le grand soir, les Gilets jaunes. Je replante les décors pour les auditeurs. Ils veulent le grand soir demain, journée du patrimoine. Ils veulent en profiter. Tant qu'à faire, c'est Éric Drouet qui voulait rentrer à l'Élysée.
Oui,
c'est
ouvert.
Donc du coup, c'est ouvert.
Ce serait bien comme image symbolique.
Emmanuel Macron a pris large. Il appelle au calme, évidemment, pour demain. Comment serait-il entre mains ?
Non,
Charles.
Ils veulent plus rentrer à l'Élysée. Ils veulent rentrer à l'Assemblée nationale demain. Ouais. Et c'est ce qu'ils appellent la nuit des barricades, par évidemment référence à la Révolution, non pas les barricades d'Alger, mais les barricades de 1792-93. Et là, non. Alex a raison, sauf que je préférais, si vous voulez, le qualificatif utilisé par Mme Krupa, sur le mouvement s'était essoufflé. C'est vrai qu'il s'était essoufflé, mais qu'il n'était pas mort et qu'il n'est pas mort. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il fait partie, aujourd'hui, maintenant, par sa résistance, si vous voulez, justement, au patrimoine français, au fond. Oui. Demain, ça tombe bien. C'est la journée du patrimoine. Ouais. Vous savez que Force ouvrière aussi, contre la réforme des retraites, il y a une manifestation. Donc, il y a une sorte de convergence.
Et c'est le 21 septembre, l'abolition des privilèges.
Voilà.
Une date anniversaire.
Absolument. Mais demain, il y a des rendez-vous qui sont donnés, notamment par les réseaux sociaux, à propos de la violence. Et justement, certains, comme Rodriguez aujourd'hui, est intervenu sur des chaînes d'infos en disant « J'espère qu'on sera très nombreux, ça se mobilise, etc. »
Oui, mais le 8-7 septembre, on était très loin du compte. Appelle 16 000 personnes en France, 800 à Paris. Drouet, Éric Drouet, pareil, une des figures du mouvement, avait dit « Bah oui, on est très loin du nombre espéré. »
J'attire votre attention, Nathalie, sur une chose, quand même un fait. c'est que les forces de l'ordre, les forces de sécurité ont mobilisé un maximum d'escadrons, aussi bien de gendarmerie et de pelotons.
Parce qu'il y a aussi, le redoute, les black blocs. Les black blocs d'étrangers aussi.
Mais quand on mobilise autant, ça veut dire qu'on a des renseignements un peu plus précis.
On va juste, Alexis, permettez-moi de vous interrompre. On a Thierry qui nous appelle de Lyon, qui attend depuis un instant, depuis un moment. Thierry, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole.
Allez-y. Ce nouveau round, vous le redoutez ?
Le futur des Gilets jaunes. Écoutez, les Gilets jaunes, pour un citoyen lambda comme moi, au départ, c'était un éclairage, dirons jaune, sur les manquements ou le manque d'anticipation de nos dirigeants et puis de la découverte d'une France qui n'est pas si grande que ça. Maintenant, aujourd'hui, 10 mois après, je dirais, ils sont 16 000, ils ne remplissent pas un stade, on en parle comme si c'était la Coupe d'Europe. Très honnêtement, je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose au collectif désormais. C'est un parti politique, enfin, c'est même pas un parti, c'est un mouvement politique.
C'est intéressant comme lapsus, c'est intéressant.
C'est pas un parti Alexis, parce qu'il n'y a jamais eu la volonté d'être un parti, mais il y a un manifeste qui va bientôt être publié, qui va
ils ont eu quand même la volonté
de s'organiser. Ils ne sont pas parvenus, Alexis et Laetitia.
Il n'y a pas eu d'ébauché politique, il y a eu un échec aux Européennes.
C'est pas fini.
Ils n'ont pas réussi à simplifier.
Si on reprend l'analyse de David Graeber, qui parle de l'âge des révolutions, on est dans un temps révolutionnaire, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que c'est ce moment où les élites ne comprennent plus ce qui se passe, il y a une déconnexion et il n'y a pas les réponses, enfin où les réponses ne sont pas adaptées. Donc on a eu Occupy Wall Street, on a eu Nuit Debout, on en a eu plein des trucs, on a eu les printemps arabes, on a les gilets jaunes en France, et c'est pas fini. Et après ça, on aura encore une vague.
Mais
on
moi je voudrais comprendre un truc, pardonnez-moi Laetitia, Alexis, Charles, je voudrais comprendre un truc, on en est où avec les gilets jaunes? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils veulent plus de pouvoir d'achat? Ils veulent une nouvelle, ils veulent des résultats de la
politique? Emmanuel Macron a été obligé de reculer.
C'est ce que je veux dire depuis tout à l'heure, et après je vous laisserai la parole.
Parce qu'il y a un élément fondamental, pourquoi
il a reculé le pouvoir politique, parce qu'il y avait un soutien de l'opinion publique. Voilà. Et encore, là, à cette rentrée, le dernier sondage dit que 4 Français sur 10 soutiennent encore et veulent que le mouvement continue. Et c'est bien sûr cette inquiétude sociale qui a impacté le pouvoir, bien sûr. Et si 4 Français sur 10 continuent à soutenir les Gilets jaunes, voilà ce qui inquiète le pouvoir en place.
Oui, mais est-ce que le pouvoir, en fait, il ne veut pas tout simplement un changement de régime? Est-ce qu'ils veulent véritablement...
C'est pas le pouvoir qui veut un changement.
Non, les gilets jaunes, pardonnez-moi, les gilets jaunes.
Les gilets jaunes ont eu des résultats, ils ont obtenu des résultats, quasiment à raison de 17 milliards au total. Bon, c'est quand même une ardoise très lourde pour le gouvernement.
Et ils
en veulent encore plus. Et c'est vrai que le soutien de 4 Français sur 10 est impressionnant. Ouais. Il faut l'avouer.
Bien sûr.
Mais le président a trouvé une forme de parade quand même, si vous voulez. C'est le grand débat permanent.
C'est ça.
Et au fond, il l'applique maintenant quasiment en toutes circonstances, puisque dernièrement, il nous a fait encore, si vous voulez, un grand débat, relativement minuscule d'ailleurs, parce qu'il y avait assez peu de monde, mais il a trouvé cette solution, et vous l'avez vu dans l'interview de Time, le magazine américain, il dit d'ailleurs qu'il a tiré des leçons, et qu'en fait, il remercie, sa phrase est en sorte, si vous voulez, des remerciements aux Gilets jaunes qui lui ont donné en même temps, une leçon.
Et l'enjeu est de réformer avec le pays. C'est un peu
merci à tous. Bon, on va voir si ce sera le grand soir demain. On verra, parce qu'effectivement, avec ce timing, les journées du patrimoine, plus la marche pour le climat, il va y avoir évidemment tous ces axes à surveiller de très près. Merci en tout cas à vous trois, Alexis Poulain, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa. Europe 1.